7h25 sur France Culture, le reportage de la rédaction. Il y a 4 semaines, jour pour jour, le mardi 4 août, peu après 18h, une double explosion ravageait le port de Beyrouth et une bonne partie de la capitale libanaise. Bilan, plus de 170 morts et 6500 blessés, des quartiers entiers sinistrés alors que le Liban connaissait déjà une crise économique sans précédent. Beyrouth, ville meurtrie, peut-elle se relever? C'est le zoom de la rédaction ce matin, alors qu'on commémore aujourd'hui le centenaire de la création du Grand Liban par la France mandataire et que le président français Emmanuel Macron est à Beyrouth. Le reportage d'Aurélien Colli.
Le port de Beyrouth ouvrait la capitale sur le monde. Aujourd'hui, avec ses silos à grains éventrés et son cratère de 100 mètres, il rappelle le chaos et un Liban à terre. À l'intérieur, l'activité commerciale reprend, mais sur les quais, des militaires français évacuent encore les entrepôts soufflés, des tonnes d'acier, de bois, de plastique et des marchandises à trier.
Nous avons dégagé dans un premier temps les grands axes routiers aux abords des hangars de façon à permettre aux unités libanaises d'approcher les bâtiments. On travaille main dans la main avec eux et petit à petit, on déblaye 50% du travail réalisé pour leur permettre de remettre en route le plus vite possible le port.
En face de l'épicentre, de l'autre côté de la voie express où certains Beyrouthins s'arrêtent désormais pour une photo, la colline d'Achrafieh qui se décroche dans le ciel bleu. Dans ces quartiers historiques des chrétiens de Beyrouth les plus dévastés, les rues sont nettoyées, mais beaucoup d'habitants sont partis et pas un bâtiment qui ne porte les stigmates de l'explosion. Charbel habitait une tour moderne dont les façades sont en lambeaux.
On a commencé les travaux, seulement les fenêtres pour l'hiver. On ne peut rien faire, on n'a pas d'argent. Pas de dollars, pas de travail. C'est catastrophique. On est vraiment fatigué, triste, c'est fini.
Ingénieur en BTP, classe moyenne supérieure, Charbel part au plus urgent, faute d'accès aux dollars pour importer les matériaux. Dans les couches populaires appauvries par la crise, c'est beaucoup plus difficile. Siam a 70 ans, dont 43 derrière le comptoir de son épicerie.
Le magasin était par terre, on ne pouvait plus entrer. J'ai pas beaucoup réparé, juste le minimum. Il y a un client qui vient toujours acheter chez moi. Il est venu lui-même avec des ouvriers. Ils ont réparé la vitrine et la porte et il a payé. J'ai passé 6 jours dans la rue juste pour protéger le magasin. C'était très difficile. Moi, je n'attends plus rien de l'État parce qu'il ne nous a jamais aidés. S'il nous aide, ce sera un miracle de Dieu.
Face à un État en faillite et une classe politique discréditée, les Libanais s'organisent seuls. Dans l'ancienne gare du quartier de Mar-Mikhaël, une coalition d'associations et de bénévoles rassemble désormais plusieurs corps de métier pour offrir consultations médicales, distribution alimentaire, solutions de relogement, expertise ou encore travaux d'urgence. Jacques est architecte.
On est en train de montrer que quand on est unis, on est très très fort. On a identifié les gens qui ont besoin de reconstruction, donc vitres, fenêtres, aluminium et portes d'entrée. On est en train de répondre à une des plus grosses crises, alors qu'un État est supposé avoir cette structure. Et on prend le rôle de l'État.
Même sentiment d'abandon en continuant vers le quartier de Gemaizeh, avant des restaurants, des cafés, des vieilles boutiques, des galeries pour flâner. Mais aujourd'hui, plus de douceur orientale, c'est un quartier fantôme au grand désespoir de Robert.
Ce sont les quartiers de Beyrouth que tous le connaissent. Chaque matin, on dit bonjour, chaque soir, on dit bonsoir. Alors, comment on va vivre si ces personnes ne sont plus là? Et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Pour l'avenir, on ne voit rien.
Une incertitude, une angoisse qu'on retrouve aussi en remontant vers le quartier Sursoc, avec ses bâtisses traditionnelles et ses palais d'influence ottomane et française. 600 ont été endommagés, comme la maison de Tania Reyes. En 1920, pour la naissance du Grand Liban, le général Gouraud, représentant de la France, y avait séjourné.
Tout est détruit. Vous voyez là ce magma là de verre, c'est tout ce qui reste des vitraux. C'est ça qui fait le plus mal au cœur. C'est la destruction de ce patrimoine, de ce vécu, de cette âme. D'un côté, ce cachet traditionnel, et de l'autre, il y avait ce souffle de la jeunesse créative.
Un patrimoine matériel et immatériel que, là encore, des Libanais veulent sauver en créant des structures indépendantes de l'État pour recevoir de l'aide internationale et reconstruire en toute transparence et sans raser le passé.